Alors, pour la dernière intervention de ce matin, ce sera donc plaisir que Gilles de Bizet vienne nous présenter ce fameux projet de programme de recherche ÉcoCESA. Je te remercie, Gilles, d'avoir pu te libérer un peu ce matin pour venir nous présenter ce projet qui relie un peu toutes les personnes du Cresson par rapport à cette école thématique. Et j'espère qu'on aura le plaisir de te voir vendredi.
Vendredi après-midi, c'est pas impossible.
Ah, parfait.
J'ai un créneau, j'ai un doodle dessus, mais il y a plusieurs autres créneaux, donc on va attendre de savoir. Bonjour à tous, à toutes. Alors, je suis très content d'être là. Je suis très content que Sylvie Laroche ait pris l'initiative de cette école d'hiver, que vous fassiez un travail sur le quartier de la Presqu'île, parce que vos réflexions vont être utiles, sans doute, pour le projet ÉcoCESA que je coordonne. Alors, je vais vous présenter le projet, vous expliquer un peu ses perspectives scientifiques, et dans l'espoir que, quelque part, ces perspectives, soit vous en fassiez en partie les vôtres, parce que vous verrez, elles sont quand même un peu décalées, elles ne sont pas spécifiquement sur les ambiances. Et donc, c'est ce lien entre les ambiances et l'énergie qui nous paraît particulièrement intéressant, et c'est un peu dans la lignée de ce que Sylvie vous a présenté tout à l'heure. Alors, un mot sur moi-même. Je suis maître de conférence en aménagement et urbanisme. J'enseigne dans des filières, d'une part, d'ingénierie, génie civil, génie électrique, et d'autre part, dans des filières sur la maîtrise d'ouvrage et l'urbanisme. Le développement territorial, donc dans deux composantes différentes de l'université Grenoble-Alpes. Voilà, donc je ne vais pas refaire le parcours de mes formations, mais en gros, je suis un ingénieur j'ai été un ingénieur qui a tellement réfléchi à pourquoi les infrastructures, pourquoi les systèmes techniques, que je suis devenu un urbaniste, voilà. Mais je ne suis pas complètement urbaniste non plus, enfin, bon, voilà. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le projet ÉcoCESA, qui est un des sept cross-disciplinary programmes qui a bénéficié de fonds de financement importants de la part de l'université Grenoble-Alpes dans le cadre de l'IDEX. Je ne sais pas si l'IDEX, ça vous dit quelque chose. Globalement, Grenoble est le site grenoblois est une des 7 ou 8 pôles français qui a reçu un financement substantiel, hein, plusieurs 20 à 25 millions d'euros par an pour faire rayonner la recherche et la formation française dans le monde entier. Les organisateurs de l'IDEX Grenoble-Alpes, hein, donc ils ont été sélectionnés comme ça après un lourd dossier, très longues investigations, évaluations, le site de Grenoble a été sélectionné pour l'IDEX, et bénéficie de financement type IDEX. Et ce financement type IDEX a ensuite fait l'objet d'appels à propositions dans le cadre d'un programme très novateur visant à développer l'interdisciplinarité et, entre autres, notamment l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénierie, hein, ou l'ingénierie ou les sciences exactes ou les sciences de la nature et de la matière. Voilà. On ne sait jamais trop comment appeler, ça fait toujours débat. Le projet, il y a un projet qui traite de l'énergie, et c'est celui que je vais vous présenter, et celui qui a sponsorisé en partie l'événement la semaine à laquelle vous participez. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que le projet ECOCESA? C'est un rassemblement d'un grand nombre de laboratoires. Mais avant, je vais vous faire le pitch, de présenter le pitch de ce projet. Quelle est l'idée principale? L'idée, c'est que on va passer dans le futur. On a déjà commencé. La transition énergétique est déjà enclenchée. Et en l'occurrence, une de ces enjeux importants, enfin des changements importants, c'est que les énergies renouvelables vont se substituer aux énergies fossiles. Qu'est-ce que ça change? Ça change que, en tout cas, si on considère la France et pas mal de pays, les énergies fossiles sont pour l'essentiel exogènes, produites donc en dehors, voire même en dehors de l'Europe, alors que les énergies renouvelables sont potentiellement, techniquement, mobilisables in situ, donc dans le territoire, sur le sol national, mais voire aussi sur le toit de nos immeubles. Ce qui veut dire qu'en termes de géographie, on peut assister à un basculement colossal. Notamment, sont interrogés les réseaux. Peut-être pas leur existence, mais en tout cas leur devenir, leur développement certainement, va être impacté par ce fait qu'on n'a plus nécessité d'aller rassembler des ressources fossiles qui arrivent de façon massive à un endroit, qui passent dans des très grands tuyaux pour aller desservir jusqu'à votre studio, votre logement. On peut imaginer un monde sensiblement différent où votre logement, votre immeuble, votre quartier soit producteur d'énergie, consomme en partie cette énergie, et puis s'il est excédentaire, si la production d'énergie est excédentaire, le réseau va être utilisé pour redistribuer l'énergie ailleurs. Voilà. Ça veut dire qu'on passe d'un système descendant, centralisé, à peut-être, parce que pour le moment, on est encore dans le système, selon les vecteurs énergétiques, encore dans quelque chose de, au moins pour le vecteur électricité et le gaz, dans quelque chose de relativement centralisé. Mais on voit bien qu'il y a de la décentralisation qui émerge, des projets possibles, et voire même le summum de la décentralisation, c'est même plus la décentralisation, il ne faut plus l'appeler comme ça, c'est l'autonomie énergétique. Voilà. On ne sait pas ce que sera l'avenir. La question qui se pose dans ce projet ECOCESA, c'est de se dire, essayons déjà d'observer les changements en cours, faisons un peu de prospective sur les changements futurs possibles, et demandons-nous, pour les sciences, qui sont des sciences qui travaillent avec 20 ans, 30 ans d'avance par rapport au déploiement, demandons-nous si ce changement potentiel de la géographie de l'énergie va modifier la pertinence, l'utilisation des innovations technologiques. Voilà, je dis ça parce que dans le groupement scientifique, on ne voit pas très bien, mais c'est ici. On a des laboratoires qui sont des laboratoires de matériaux et de composants. C'est des laboratoires qui travaillent sur des aspects microphysiques, électroniques, chimiques, des matériaux qui seront peut-être demain les futurs panneaux photovoltaïques ou d'autres systèmes. Et quand je dis demain, le temps que ça arrive par l'activité, on va dire des approches un peu techno-push, le temps que ça arrive sur vos toits, il va s'écouler une vingtaine d'années. Voilà. Donc un des enjeux pour ces gens qui travaillent sur les matériaux, l'un des enjeux, c'est d'essayer de penser un peu le futur. Ça, c'est pour les gens qui travaillent sur les matériaux et les composants. Pour les chercheurs qui travaillent sur les systèmes, là, un laboratoire de génie électrique, ici c'est un laboratoire de génie thermique, donc vous avez aussi à la frontière des systèmes, les gens qui travaillent sur les informaticiens, hein. Les automaticiens. Pour ces entités-là, qui sont plutôt des technologues qui développent des systèmes, une des questions qui se posent à eux, c'est En quoi ce développement des énergies renouvelables va modifier, comment il faut qu'ils les intègrent dans leur système, dans leur développement technologique, et notamment dans leur système informatique, qui sont pour l'essentiel des outils d'aide à la décision, des outils d'aide à la gestion de l'énergie, des outils d'aide à la planification d'infrastructures énergétiques. Et donc il s'agit, on considère que le pitch que je vous ai énoncé au début est un changement de paradigme pour leur activité. Voilà. Et puis vous avez les gens qui travaillent, je dirais plutôt les sciences sociales, à AU, organisateur de cette école d'hiver. Gaël, qui est un laboratoire d'économie expérimentale, d'économie comportementale, donc il s'intéresse au comportement des individus en situation de choix. Et puis mon laboratoire, PACT, qui est un gros laboratoire de sciences sociales grenoblois, qui rassemble les urbanistes, les politistes, des géographes et des sociologues du site grenoblois. D'où les questions qu'on se pose, c'est pas tant de fabriquer le futur, c'est pas tant de construire de nouveaux modèles, parce que ça c'est ce que nos camarades nous demandent, mais c'est pas notre seule finalité. Ce que on essaie de faire, c'est d'identifier de qualifier des relations entre un ensemble d'éléments physiques et d'éléments sociaux autour des échelles qu'on va investiguer de façon privilégiée. Quelles sont ces échelles qu'on a fait ici de façon privilégiée? C'est l'échelle du bâtiment et l'échelle du quartier, qui sont des échelles où émergent ou peuvent potentiellement se construire des communautés, entre guillemets, parce que c'est un peu des communautés de pratique, voire qui peuvent être aussi des communautés de pensée par rapport aux questions énergétiques. Un dernier mot sur le pitch. Je vous ai dit des énergies exogènes par des énergies in situ. C'est ce qui est devenu possible. Je ne dis pas que le futur sera ça. Je dis que c'est possible. Deuxième caractéristique, c'est qu'on remplace des énergies stockables. C'est facile de stocker du gaz, c'est facile de stocker du pétrole, par des énergies. En tout cas, les sources d'énergie qu'on mobilise, pour une part, c'est des sources intermittentes. Intermittentes, par exemple, l'hydraulique, l'hydroélectricité, ça va dépendre du débit des rivières, donc c'est variable au cours de l'année. Mais encore plus intermittent, c'est le soleil. On est sûr de ne pas en avoir la nuit, on n'en a que le jour, mais même le jour, on n'est pas sûr d'en avoir toute la journée. De la même façon, le vent, là aussi, c'est intermittent. Et donc, des enjeux, des difficultés qu'il faut, si on veut utiliser ces énergies, c'est de faire concilier les moments où ces énergies sont abondantes. La nature offre une abondance du vent, du soleil ou de l'eau, avec les moments où on consomme, parce qu'il y a une grande variation de nos consommations, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour l'électricité, pour les usages, par exemple l'éclairage ici, les usages domestiques ou dans les bureaux, ou que ce soit pour se chauffer. Et cet écart rend finalement, entraîne, en tout cas si on regarde le prix de l'électricité, qui est l'énergie qui est la plus soumise aux fluctuations temporelles de prix, eh bien on a des écarts infinis entre deux prix, puisque parfois on a des prix négatifs de l'électricité sur le marché gros. Alors c'est pas le consommateur final, mais sur le marché gros les prix sont négatifs, puis à d'autres moments on a des prix d'électricité qui vont être très élevés. En pointe du soir en hiver, pointe de fin d'après-midi en hiver, l'électricité vaut peut valoir plusieurs centaines d'euros le mégawatt. Le mégawattheure, alors que un dimanche de printemps, bien ensoleillé, bien venté, l'électricité a un prix négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font payer pour consommer de l'électricité. vous voyez bien que derrière, il y a aussi des logiques, des enjeux économiques qui vont faire que finalement, ce qui va coûter demain, ce n'est pas l'énergie. Ce qui va coûter demain, c'est l'énergie au bon moment. Voilà. Du coup, ça laisse un espace pour le stockage. Si on arrive à stocker de l'énergie, eh bien, on peut faire rejoindre ce décalage, enfin, on peut réduire le décalage entre les moments où on produit facilement de l'énergie, pas cher, un coût marginal faible, parce que l'énergie solaire a un coût marginal faible, avec les moments où on va consommer. Ce qui veut dire que si on se représente dans nos villes, il y a des objets qui vont devenir beaucoup plus présents. Déjà, dans vos logements, est-ce qu'il y a un endroit où on stocke de l'énergie ? Ah, on va nous dire la réponse. Est-ce qu'il y a des moments où on stocke de l'énergie ?
Cumulus.
Ouais, le cumulus dans le logement, votre chauffe-eau électrique, il permet de finalement de chauffer tout doucement l'eau et de consommer très rapidement une grande quantité de chaleur. Voilà. Et donc on peut imaginer que ces volumes-là sont augmentés déjà aujourd'hui dans les bâtiments d'habitat collectif, du chauffage collectif. Lorsqu'il y a des panneaux solaires, eh bien, il y a des gros blocs, des grosses réserves de citernes d'eau chaude hein, qui vont servir à absorber doucement, lentement l'énergie solaire pour produire de la chaleur par anticipation de sa consommation. Il y a d'autres systèmes qui existent. Hein. Par exemple, là, moi, je peux me déconnecter. Je suis déconnecté du réseau. Et donc, il y a un déphasage entre mon soutirage, l'usage de mon ordinateur et le soutirage du réseau électrique. Voilà. Donc, on peut imaginer, même on est sûr que demain, ces objets-là vont prendre de plus en plus d'importance. Est-ce qu'ils vont être développés à l'échelle du logement, genre cumulus, genre mon ordinateur? Est-ce qu'ils vont être développés à l'échelle de grandes régions, genre le barrage de Serre-Ponçon ou le barrage de Grand Maison, hein, qui est, où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans le réseau électrique? On vient puiser de l'eau dans le barrage qui est le plus bas, dans le réservoir le plus bas, et on remonte cette eau la nuit dans le barrage haut, et puis le lendemain matin, à l'heure de pointe, hop, l'eau, on fait redescendre l'eau, l'eau fait tourner des turbines et produit de l'électricité. Et comment on a fait remonter l'eau la nuit? Eh bien, on fait remonter l'eau la nuit avec l'électricité produite par les centrales nucléaires qui produisent trop d'électricité la nuit. Voilà. Donc, comme ça, il y a différents systèmes qui peuvent être envisagés, mais qui ont chacun leur géographie. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que ces systèmes-là, on va les voir plutôt près du consommateur, genre le chauffe-eau, ou est-ce qu'on va les voir plutôt près, portés, organisés par le producteur? Voilà. Et puis même, qu'est-ce que ça veut dire demain, le producteur et le consommateur? Il se peut qu'en ville, il y ait de nombreuses entités qui fassent les deux. Qui produisent quand il y a du soleil et qui consomment, auto-consomment en partie, et qui revend ou donne ou cède ses excédents d'électricité, ses excédents de chaleur aux voisins. Voilà. Donc vous voyez les conséquences de tout ce changement-là peut avoir ou a commencé déjà à avoir des conséquences multiples et ouvre en fait un champ des possibles extrêmement grand. Voilà, alors comment on va travailler à ces questions-là? Bon, ça, c'est des questions que j'ai abordées. Voilà, je dirais peut-être si je prends les objets, si je prends l'objet bâtiment, bah, le fait qu'un bâtiment puisse être à la fois producteur et consommateur se pose la question de quand il va produire un peu plus d'énergie qu'il consomme, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va stocker cette énergie? Ou est-ce qu'il va la céder à un voisin, un bâtiment voisin? Est-ce qu'il la réinjecte dans le réseau avec des prix au prix du marché, hein, comme un opérateur de marché? Voilà. Et bah, moi, j'ai pas de réponse à cette question. À l'échelle du quartier, est-ce que va se développer des équipements qui seraient communs à plusieurs bâtiments? Tout à l'heure, vous avez vu l'image du bunker énergétique que vous a présenté Sylvie. On peut imaginer que ce serait aussi un stockage d'eau chaude, hein, un moyen de stockage, un stockage thermique. Voilà. Est-ce que c'est faisable et qui en serait propriétaire? Est-ce que ce serait la ville? Est-ce que ce serait l'opérateur du réseau de chaleur? Est-ce que ce serait l'opérateur du réseau électrique parce qu'il y a des panneaux solaires dessus? Est-ce que ce serait l'association des bâtiments, un ensemble de copropriétés? Vous voyez qu'il y a un lien aussi entre le lieu où on va trouver ces équipements et l'entité qui en serait porteuse. Voilà. Et puis les réseaux, toutes ces questions posent des tas de questions sur les réseaux, hein, sur comment on va réguler les réseaux. Comment on va, s'il y a énormément de production, d'autoconsommation, de production, enfin, tout ça est extrêmement varié, hétérogène, comment on va s'assurer, par exemple, que le réseau électrique transporte toujours la même quantité d'énergie que celle qui est consommée dans les ramifications du réseau électrique. Alors, comment on va faire pour équilibrer le réseau électrique? C'est une vraie question. Parce que si on n'équilibre pas, qu'est-ce qui se passe? Soit la tension baisse et les appareils sont détraqués, l'électricité fournie vient détruire des équipements. Enfin, ça, c'est quand elle monte trop haut. Soit elle baisse, puis à un moment donné, elle baisse tellement ou elle monte tellement que on préférera, pour ne pas endommager des appareils, on préférera couper. Donc c'est ce qu'on appelle le blackout. Donc voilà, derrière ça, il y a des questions aussi pour le réseau. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle ces questions-là intéressent en fait tous les labos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on peut imaginer, ça fait référence à un travail qui était mené dans un projet antérieur, là, qu'on a fini il y a un an, hein, qui s'appelle Écoquartier Nexus Énergie, où on a essayé d'imaginer quels seraient des différents distributions d'énergie, technologies utilisées, spatialité mise en œuvre, selon que c'est plutôt des coopératives, donc des associations d'habitants, voire de petits établissements, qui jouent un rôle important en matière de mutualisation de l'énergie, développement de systèmes techniques de production, de systèmes techniques de stockage, voilà, ou selon que on vient confier à une entreprise, une même entreprise, les trois réseaux, la gestion des trois réseaux d'énergie qu'on retrouve en milieu urbain, c'est-à-dire l'électricité, le gaz ou la chaleur. Voilà, si on leur confiait ça, ils pourraient faire facilement des passages entre, du style, je produis plus d'énergie photovoltaïque, hop, je vais en profiter pour chauffer de l'eau que je vais mettre dans des grands réservoirs en anticipation de la consommation. Voilà. Donc si on confie ça, cette gestion des réseaux, et la gestion de la production et de la consommation sur un morceau de territoire à une grande entreprise, voilà, qu'est-ce qui se passerait? Comment ça pourrait fonctionner? Et puis, au troisième scénario, si finalement, c'était plutôt aux collectivités locales qu'on donne un pouvoir fort de venir piloter, définir en partie les règles de gestion de l'énergie en temps réel, et puis aussi définir, piloter, planifier les infrastructures de réseau, les infrastructures de production et les infrastructures de stockage d'énergie sur leur territoire, sur le territoire municipal. Qu'est-ce qui se passerait? Voilà. On a fait trois cas différents. Et puis enfin, un dernier cas, c'est plutôt de dire, finalement, il n'y a pas ces acteurs intermédiaires, ni les coopératives, ni les grandes entreprises, ni les collectivités locales, mais il y a un État, qui fixe les règles, qui dit à chacun ce qu'il doit faire précisément, obligatoirement. Voilà. Donc un État prescripteur, voilà, et qui optimiserait les réseaux à son échelle. Qu'est-ce qui se passerait? Donc on a fait trois scénarios comme ça. Je vais juste vous relater une publication récente là-dessus, parce que ça a amené, enfin, d'ailleurs c'est pas encore publié, hein, mais qu'est-ce qui se passerait? Là, on s'est demandé là où étaient les prises de décision les plus structurantes sur la coordination de l'énergie. Bon. Si c'est l'État prescripteur, évidemment, l'État va être au niveau pays, il va jouer un rôle important de définir, il y aura un pouvoir important. Il visera une autonomie énergétique à son échelle. Et puis, ben, si chante tous les acteurs intermédiaires que j'ai décrits, il va s'adresser directement aux bâtiments. Par exemple, il va dire, maintenant, il faut avoir des bâtiments énergie positive. Voilà, paf, il dit ça. Ça veut dire que, progressivement, on peut penser le bâtiment, l'autonomie du bâtiment, à cette échelle-là, l'autonomie énergétique, à l'échelle du bâtiment. Voilà. Donc l'État prescripteur, vous voyez, il met en exergue ces deux échelles-là. Si par contre on est collectivité locale, là, ben, les collectivités locales, elles vont viser une relative autonomie énergétique. Pourquoi ? Elles vont viser à ce que le territoire produise de l'énergie pour éviter que d'acheter de l'énergie à l'extérieur. Donc elles vont viser à ce qu'il y ait une économie locale qui soit développée autour de l'énergie pour garder la richesse sur le territoire, pour créer de l'emploi. Donc là, on va avoir ici une visée d'autonomie énergétique avec une capacité à dire que les choses doivent être organisées à cette échelle-là. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on va s'adresser plus, parce que c'est une démocratie, plus aux citoyens, et donc on va donner plus de pouvoir plutôt aux l'habitant dans un logement. Si je prends le scénario grande entreprise, là le système est différent, c'est bien la collectivité qui va choisir l'entreprise qui sera concessionnaire des réseaux sur un morceau de ville, mais l'optimisation, la gestion, la coordination se fera ensuite en temps réel par l'entreprise pendant 4, 5 ans, 10 ans, le temps de sa concession, et c'est elle qui va essayer de s'adresser non pas au bâtiment, mais aux consommateurs, à ses abonnés finaux, pour leur vendre du service, un peu comme on vend du service avec une application de smartphone. Donc, voilà, à ce moment-là, on a un scénario où les deux pôles sont plutôt... Enfin, le pôle principal, c'est l'échelle quartier, mais grâce au choix des collectivités, mais aussi à une politique européenne qui vise à privilégier les grandes entreprises. Enfin, acteurs coopératifs, là, on va partir, on va dire, ben, il y aura moins de décisions qui sont prises à l'échelle du logement, un peu plus qui seront prises à l'échelle du bâtiment, des personnes qui vivent dans le même bâtiment, et qui, voire peut-être même, vont chercher à se rapprocher d'autres bâtiments pour mutualiser des équipements et développer ici un système plutôt délibératif, hein, où on va prendre la décision ensemble, décision sur les prix, sur les conditions d'utilisation, etc. Vous avez tous sans doute été dans des gîtes, j'aime bien cette analogie, été dans des gîtes où au bout de deux jours avec vos copains, ou le premier soir, vous apercevez, ou le lendemain matin, premier matin, vous apercevez que il n'y a plus que de l'eau froide sur les douches. Il y en a quelques-uns qui ont pris les douches chaudes. Bon. Gérard, ça arrive le premier jour, après qu'est-ce que vous faites?
Vous discutez.
Quoi? Alors vous en parlez et vous allez vous mettre d'accord, je sais pas, ce sera de définir des règles, on prendra sa douche un jour sur deux, ou à telle heure et l'autre à telle heure, ou bien alors on restera que 30 secondes sous la douche, enfin voilà. Les règles peuvent être très différentes selon les groupes. Donc là, dans un système coopératif, on peut imaginer que les règles internes se discutent comme ça. Alors que dans le système grande entreprise, là, les règles internes, elles ne sont pas discutées avec les abonnés. Hein. Elles sont éventuellement... La façon dont on va confier le cahier des charges d'entreprise, elles peuvent être discutées par le délibératif, par la commune. Elles peuvent être encadrées par des lois ou désencadrées par des lois européennes. Mais il n'y a pas de délibératif là en aval. Donc vous voyez que derrière ces différents scénarios, finalement, on a s'esquisse des capacités d'un ensemble, d'un groupe, d'une communauté, j'aime pas trop le terme communauté, mais j'arrive pas à trouver de remplaçant, la capacité d'une communauté à définir en partie des règles qui lui seraient spécifiques. Et on voit bien que sur l'énergie, on ne va pas avoir tous les niveaux qui seraient... Il n'y aura pas des discussions, des délibérations à tous les niveaux, il y aura des délibérations à certains niveaux suivant le type de scénario. Du coup, pour le projet Éco-César, ce qu'on travaille, nous, à cette échelle-là, à l'échelle bâtiment et l'échelle quartier, vous voyez qu'on est confronté, on pourrait avoir des communautés d'échelle radicalement différentes, et du coup, derrière ça, des systèmes aussi techniques qui sont différents, voire aussi des outils d'aide à la décision qui seraient différents. Voilà. Et ça renvoie, vous savez bien que cette notion d'appartenance à une communauté, c'est évidemment, il faut qu'il y ait un peu une action, c'est-à-dire qu'une communauté qui ne ferait rien, qui n'aurait pas d'action, elle n'a pas de sens. Donc il faut bien qu'il y ait une capacité à agir ensemble sur quelque chose. C'est une première définition d'une communauté, mais c'est aussi une identité, d'où je pense, c'est pour ça qu'on est très intéressé par vos travaux, c'est des identités, parce que derrière c'est des sensations aussi, c'est des sentiments d'appartenance à quelque chose, c'est des reconnaissances, la capacité à se reconnaître dans des objets, c'est aussi des objets qui aujourd'hui sont largement invisibles. Voilà. Donc finalement, je ferme et je reviens à mon PowerPoint. Donc finalement, vous voyez que vous allez investiguer un terrain qui peut avoir des évolutions importantes, même s'il est déjà en partie grandement dessiné. Hein. Alors comment on s'organise dans le CDP? Comment on s'organise? On est organisé en 5 fronts de recherche. L'idée de front de recherche, c'est de dire que chaque front de recherche correspond globalement vraiment à un front de recherche international. On sait aujourd'hui que sur tel ou tel, par exemple sur le comportement émergent de l'individu aux communautés ou des communautés à l'individu, il y a une recherche internationale qui associe les économistes, qui associe des sociologues et qui essaie de creuser cette question-là en observant dans plein de pays différents et d'arriver à conceptualiser les choses. Voilà. Il va y avoir, moi je m'occupe aussi de celui-là, la mobilisation des interactions bâtiments et réseaux. On sent qu'émergent là, notamment des intermédiaires, des acteurs intermédiaires entre les grands réseaux et les bâtiments ou entre les grands réseaux et les productions extrêmement décentralisées d'énergie. Et la question, c'est d'essayer de modéliser ces interactions. Pourquoi on veut modéliser ces interactions? D'une part, parce que c'est un peu la finalité de la production scientifique dans la discipline urbanisme ou dans la sociologie, de venir essayer de représenter ce qui se passe. Mais aussi parce que derrière, nos collègues qui sont des spécialistes des systèmes électriques, ils ont envie de développer des outils d'aide à la décision qui seraient adaptés aux organisations que je vous ai décrites tout à l'heure. Et donc, il y en a qui sont très très motivés pour définir des outils d'aide à la décision qui vont aider les coopératives à dimensionner les panneaux solaires. Voilà. On peut aussi imaginer de développer des outils qui vont aider les collectivités locales à mieux prendre en compte le temps réel dans la décision de planifier les infrastructures de réseau. Voilà, j'en dis pas plus, voilà ce qu'on va produire, c'est avec Éco-César pour ambition de produire des concepts, des modèles, des outils, des méthodes pour les futurs systèmes énergétiques urbains. Et puis aider nos camarades qui travaillent vraiment sur les composants, les chimistes, les physiciens, les aider à penser leur développement comme étant un composant des systèmes énergétiques, soit des systèmes énergétiques à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier. Comment on va opérer? Alors, Je pense que pas loin de la moitié de nos travaux se feront par l'observation de la presqu'île. Alors, ce qui est intéressant, la presqu'île, parce qu'il y a un écosystème d'acteurs assez dynamique, parce qu'on a des projets qui sont, il y a une mixité, à la fois des bâtiments quasiment industriels, je pense le LNCMI, hein, qui est, bon, qui est un bâtiment de, pour la recherche, mais il a un process industriel, les massifs. Le LNCMI, c'est, je ne sais pas si Sylvie vous en a parlé, c'est l'équivalent, quand il travaille à plein pot, c'est l'équivalent de la consommation de 25 000 foyers. Donc, il y a des risques même de pénurie d'électricité quand le LNCMI travaille. Voilà. De l'électricité. En fait, c'est un laboratoire de champ magnétique intense. Ils ont besoin, en fait, ils viennent tester des produits, des matériaux, des composants, dans des grosses, au centre, en les posant au centre de grosses bobines, en les soumettant à des champs magnétiques très intenses, quoi, extrêmes. Voilà. Et pour ce faire, pour développer ces champs magnétiques, ils consomment énormément d'électricité. Et leurs machines chauffent, donc ils ont besoin de les refroidir, du coup ils rejettent énormément de chaleur. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce que cette énergie, qui est aujourd'hui complètement rejetée dans l'eau, qui est invisible, est-ce qu'on peut la réutiliser, par exemple, pour chauffer des bâtiments ou pour préparer de l'eau chaude sanitaire? Et qui, par qui, comment, par quel réseau? Quelle image, est-ce que ça va changer les images et voilà, est-ce qu'il faut le rendre visible ou pas, quel effet ça pourrait avoir de le rendre visible. Voilà, Green Air qui est un bâtiment, une école d'ingénieurs, hein, donc, mais avec pas mal d'expérimentation, une zone résidentielle qui est ici. Et puis, voilà, pour l'essentiel. Après, il y a d'autres projets, mais ils sont encore incertains. Donc, notre idée, c'est d'étudier ensemble, à la fois faisant des enquêtes sociales, ou des questionnaires, ou des protocoles expérimentaux pour comprendre les choix des usagers, et en même temps, de faire du monitoring de mesures physiques, et pour savoir quels sont les effets de ces choix sur les grandeurs physiques. Et inversement, est-ce que des signaux, des informations sur les grandeurs physiques peuvent venir modifier des pratiques et des usages? Voilà l'idée de travailler ça. Et le transect urbain, on le conçoit évidemment comme un outil qui va permettre de travailler notamment l'articulation entre la dimension bâtiment et la dimension quartier. C'est en ça qui nous paraît très intéressant, c'est qu'il permet de voir le bâtiment, éventuellement ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, même s'il y aura des variantes, je ne sais pas on va vous en parler beaucoup plus, beaucoup mieux que ce que je ferai moi-même. Et puis de voir aussi les espaces extérieurs. Et donc d'avoir finalement, sur un même support, des pluralités de représentations, des pluralités de vécu. Et de voir comment, est-ce que ça, nous, enfin, ce qu'on espère, mais je ne veux pas mettre la pression, hein, mais c'est qu'on vienne nous dire, bah, tiens, là, il pourrait, ou il est en train de s'esquisser, ou il y a une communauté autour de telles questions qu'on ne voyait pas, et qui, voilà, autour de telle question, autour de tel objet. Et voilà les valeurs que porte cette communauté. Je pense qu'ils ne nous répondront pas, Nicolas et Sylvie et vous-même, vous ne nous répondrez pas aussi fermement à ça. Mais bon, on espère. Pourquoi ça nous intéresse, ça? Ben parce que derrière, on peut dire, tiens, on va aller tester en économie expérimentale telle valeur qu'on ne voyait pas avant. Et donc, on va ensuite poser des questions aux habitants et voir si le fait de mobiliser telle valeur change leur comportement.
Voilà.
C'est ça.
Pas de...
Alors, peut-être que vous allez en voir aussi, en trouver des associations. Voilà. Voilà. Est-ce que, des questions que je me pose tout le temps, est-ce que l'ensemble des habitants d'un bâtiment qui se réunissent une fois par an dans une assemblée générale de copropriété, est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est des gens? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'on peut dire qu'ils partagent un certain nombre de valeurs? Et que demain, par rapport à un choix énergétique, des valeurs qui pourront avoir une influence demain sur leur choix énergétique. Du style, mettre des panneaux solaires ou autre. Voilà. Voilà, donc on a enclenché pas mal de recrutements. Là, vous avez, je crois qu'on en a 10-12 personnes. Ouais, 12 personnes recrutées. On a encore 3-4 autres recrutements cette année pour des thèses, pour des post-docs d'un an, voire de 2 ans. Voilà, là aussi, tenez-vous au courant si vous êtes intéressé pour travailler avec nous sur ces aspects-là. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là et répondre à vos questions parce qu'il faut que je m'en aille dans 7 minutes, 8 minutes. Donc, mieux que je m'arrête là. Des questions ?
Si j'ai une question. De ces projets, vous avez les utilisés donc, par quartier, donc très ciblé, mais après, est-ce que vous pouvez, par exemple, dans le vieux Grenoble, dans d'autres quartiers qui sont peut-être tout aussi intéressants, utiliser ces stratégies ? Est-ce que c'est envisagé
oui.
dans le futur ? Est-ce que ça va servir en fait comme modèle ?
On souhaite monter en généralité. Alors, pas tant de modèles. En fait, moi, je pense un peu que chaque quartier est un peu unique dans son tissu urbain. Et surtout celui-là, il est quand même assez singulier, hein, puisque c'est historiquement, c'est la presqu'île scientifique. Vous avez concentré la moitié de la recherche grenobloise qui est là-dessus. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de quartiers sur un espace aussi restreint où vous avez 10 000 chercheurs de haut niveau qui sont concentrés là. Hein, donc, enfin, il n'y a pas beaucoup de quartiers dans le monde qui sont comme ça. Voilà. Donc, ce qui du coup, ce n'est pas un quartier générique. Et or, nous, nos résultats en sciences sociales, mais même aussi pour les autres, et les modèles, les outils qui seraient développés, il faut qu'ils représentent une certaine généricité. Ils ne sont pas adaptés juste à ce quartier-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis à peu près la moitié des recherches vont se faire là, des observations vont se faire là, puis l'autre moitié sur d'autres terrains, qui seront pensés pour être complémentaires afin de monter en généralité. Et c'est alors pourquoi c'est quand même pourquoi on pourrait se dire bon, on pourrait travailler ailleurs. Non, ce qui est intéressant c'est que il y a une proximité géographique, ça va être facile d'enquêter, facile de mesurer, et que on a choisi 3 zones dans lesquelles il va y avoir 4-5 disciplines différentes qui vont travailler, et donc c'est par le partage de terrain qu'on pense que ce fera aussi une meilleure intercompréhension entre les disciplines. Parce que vous avez qu'une des grandes difficultés lorsqu'on deux disciplines travaillent ensemble, hein, par exemple les économistes avec les urbanistes ou les urbanistes avec les informaticiens. Une des grandes difficultés, c'est que dès lors qu'on prononce un mot, des fois on a le même mot, enfin c'est comme deux langues étrangères, c'est-à-dire qu'on a le même mot qui va désigner des concepts différents et on va mettre 3 mois avant de s'en apercevoir, voire 1 an avant de s'en apercevoir, et inversement il y a des mots qu'on a dans une langue et qui sont quasiment pas compréhensibles par les autres, et donc ce travail-là d'interdisciplinarité il va être beaucoup plus, enfin de compréhension interdisciplinaire, il va être facilité par le fait que on travaille sur le même terrain. Donc on pourra toujours dire oui, par exemple ça, ou par exemple l'habitant qui a fait ça à tel moment, c'est un comportement ou c'est une pratique. Alors que si on n'a pas, on ne partage pas ça, on reste dans du théorique et on met beaucoup de temps à s'apercevoir qu'on ne se comprend pas. Voilà. C'est bon ?
Oui.
Bon, merci de votre attention. Bon travail.